sur Via 95. C'est le parc en 30 minutes. L'actualité et le déploiement du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et on répond à vos questions. Tout ça en 30 minutes. Voici Marc Rochette.
Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Le Parc en 30 minutes, présentée en collaboration avec la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour. Et comme toujours, toujours un plaisir de retrouver Donald Olivier, son président directeur général. Bonjour Donald.
Bonjour Marc.
Alors, avant de saluer notre invité en studio, parce que nous avons un invité en studio encore aujourd'hui, on a vraiment un privilège pour ce midi. Et petit indice, on aura un lien, ça aura un lien avec le nucléaire, je crois.
Oui, effectivement.
Et donc, je tiens à rappeler à nos auditeurs, auditrices, que pour transmettre vos questions, il suffit d'aller tout simplement sur le site via.fm, onglet Le Parc en 30 minutes, et de cliquer sur « Poser vos questions ». Ou sinon, on peut le faire par texto ou par téléphone au 819-519-9050, 819-519-9050. Alors, profitez-en là, pour poser vos questions. On va parler du nucléaire et on va présenter notre invité. Mais avant de le faire, Donald, on va revenir comme toujours sur les sujets d'actualité. Évidemment, les derniers jours, on a parlé de Nordvolt, la faillite, et à chaque fois, bon, les gens alentour de ces nouvelles-là, bon, qu'est-ce qui va arriver avec la filière batterie, tout ça, mais... Quand on regarde Nordvolt, c'est une chose, mais quand on regarde ce qui se passe à Bécancour, c'est autre chose.
Oui, bien, les projets de Bécancour, les gens qui passent voient, puis j'ai des amis qui me disent « Crème, à chaque fois que je passe, on dirait que ça a changé, c'est vrai. » Et puis, il faut voir que Nordvolt, le projet, c'est ce qu'ils ont fait, ils travaillaient sur l'aménagement du terrain, donc je pourrais dire simplement que ça a fait couler plus d'angle que de mètres cubes de béton à date. Et puis, donc évidemment, c'est un projet qui aurait été intéressant, qui voit le jour, quel sera le futur, bonne question. Mais assurément, il n'y a pas d'impact de Nordvolt versus les projets de Bécancour. Puis Bécancour, il ne faut pas se gêner de le dire, c'est le cœur de la filière batterie. Donc, les projets de décarbonation que le gouvernement souhaite pousser, les 5 projets actifs qu'on a sont toujours actifs et il y a des vallées et nouveaux mondes graphite qui pourraient s'ajouter. Donc, les 5 projets actifs pourraient passer à 7 d'ici l'automne ou l'hiver prochain.
Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Donc, parmi les joueurs, d'ailleurs, EcoPro, récemment, on en avait parlé sur nos ondes, cette entente avec Hydro-Québec, le centre de recherche, ça a fait couler beaucoup d'encre dans les autres médias aussi. Donc, c'était une bonne nouvelle qu'on avait annoncée ici même.
Bien, dans le fond, on en parle parce que c'est une revue de l'actualité, mais on avait parlé ici lundi passé, ça fait que c'est les médias qui l'ont repris, ça fait que les auditeurs du 95, ça ne sera pas une nouveauté, mais évidemment, le partenariat a été mis en valeur Hydro-Québec avec EcoPro Innovation pour un centre de recherche. Et j'ai compris que c'était dans les bureaux d'Hydro-Québec, dans le LTE, ce qu'on appelle à Shawinigan, donc l'investissement de 23 millions qui allait se faire.
Je te laisse avec plaisir le soin de nous présenter notre invité en studio pour cette émission.
Oui, puis je pourrais le présenter, pourrais prendre beaucoup de temps pour le présenter parce que le thème, c'est le nucléaire, mais on va parler de Gentil 1 et non de Gentil 2. Mais Steve Plante, donc bonjour Steve.
Bonjour.
Steve est un ancien collègue. Bon, les gens, s'ils ne le savent pas, s'en souviennent pas, moi j'ai travaillé quand même 5 ans là et Steve est un collègue à Hydro-Québec et puis Steve a un autre mandat présentement avec Énergie Atomique. Fait que donc, Steve, quelqu'un qui a travaillé dans le nucléaire, on peut dire toute ta carrière, hein, Steve? Dès que tu as fini l'université, tu es tombé dans ce milieu-là.
Oui, j'ai travaillé à Gentil 2 pour un peu plus de 30 ans.
Oui, et maintenant Gentil 1. Et puis, Gentil 1, c'est comme important de distinguer les deux, Gentil 1 et Gentil 2, mais je te laisserai présenter parce que tu travailles maintenant pour Laboratoire canadien nucléaire. Donc, peut-être nous parler un peu de l'entreprise pour laquelle tu travailles maintenant, depuis maintenant, je pense, 2 ans.
Oui, depuis 2022. Donc, les Laboratoires nucléaires canadiens, c'est une entreprise du secteur privé. Puis, on a été mandaté par Énergie atomique du Canada Limité pour gérer leur installation nucléaire. Donc, à Gentilly, on a Gentilly 2, que les gens connaissent bien, qui est géré et qui appartient à Hydro-Québec. Mais s'il y a un Gentilly 2, c'est parce qu'il y a eu un Gentilly 1.
Effectivement.
Gentilly 1 a toujours appartenu à Énergie atomique du Canada Limité, puis c'est encore eux qui sont propriétaires. Donc, nous, depuis 2015, on est mandatés pour gérer les installations nucléaires qui appartiennent à Énergie atomique du Canada Limité, dont Gentilly 1.
Donc c'est vraiment... Parce que bon, pour avoir été journaliste pendant quelques années, on parlait beaucoup de Gentil 2, Gentil 2, mais Gentil 1, pour moi, c'était quasiment une révélation que c'était encore dans le décor. Donc, ça va être intéressant au cours de l'émission qu'on fouille davantage cet aspect-là de G1, comme on dit. Mais je ne sais pas si on peut revenir un petit peu sur l'historique de les laboratoires nucléaires canadiens. Ça aussi, c'est méconnu dans la région, alors que bon, c'est dans le décor. Puis bon, ça date quand même... même des années 40 quasiment.
Effectivement, fait que les laboratoires nucléaires canadiens, on gère Gentilly 1, comme j'ai dit, mais le principal site qui est géré par les laboratoires nucléaires canadiens, c'est le site de Chalk River, qui est situé en Ontario, à peu près à 200 km au nord d'Ottawa, sur les rives de la rivière des Outaouais. Ça, comme tu disais, Marc, c'est un site qui a vu le jour dans les années 40. Puis c'est un site qui est assez important là, au niveau de l'historique pour le nucléaire au Canada. C'est sur ce site qu'il y a eu la première réaction nucléaire contrôlée à l'extérieur des États-Unis en 1945.
Wow.
Donc, c'est un site de 9000 acres. C'est immense. Donald est déjà allé.
Oui, effectivement, c'est très grand.
Oui. Puis, on mène des projets de recherche reliés au nucléaire sur ce site. Il y a une cinquantaine de laboratoires. Puis, c'est un site qui est très actif. On gère aussi d'autres sites qui appartiennent à l'énergie atomique du Canada, ailleurs au Canada, dont au Manitoba, les laboratoires de Whiteshell. Il y a aussi le réacteur prototype de Douglas Point sur la péninsule de Bruce. Puis il y a aussi d'autres sites au Canada. Mais plus principalement aussi, on gère ce qui intéresse les gens de la région, là, c'est vraiment les installations de Gentilly 1.
Oui, c'est ça. Les gens qui passent voient les deux gros silos de béton. Donc, mm-hmm. Celui qui est plus à l'ouest, près du quai ou de Trois-Rivières, c'est Gentilly 1. Et celui qui est davantage à l'est est Gentilly 2.
Il faut le dire que ça ne fait pas partie du parc industriel, mais c'est tout juste à côté. Hein?
Oui, ça ne fait pas partie du territoire, mais c'est un voisin. Et maintenant, ils sont entre les deux zones du parc industriel. Avec l'adoption du projet de loi 87 qui agrandit notre territoire avec le site de la Prade, ben, les deux réacteurs, Gentilly 1 et Gentilly 2, sont entre les deux zones du parc industriel.
On a fait un peu l'histoire de laboratoire nucléaire canadien, mais c'est quoi les priorités de votre organisation, Steve?
Oui, ben en fait, on a principalement trois missions au laboratoire nucléaire canadien. La première, c'est de restaurer l'environnement, puis le déclassement de Gentilly 1 fait partie de cette mission. Il y a aussi produire de l'énergie propre. Donc, on a des programmes de recherche pour soutenir l'industrie du Candou, puis la production aussi d'hydrogène, puis d'autres projets. Puis la troisième mission, c'est de contribuer à la santé des Canadiens. Donc, on produit des radioisotopes pour le traitement du cancer.
Puis, on a parlé évidemment de G1 tout de suite d'entrée de jeu de l'émission, mais peut-être qu'on pourrait peut-être y aller avec l'historique de G1, justement. Bon, la raison d'être d'abord initiale, mais aussi, bon, quelle année qu'on a démarré le tout, combien de temps ça a duré tout ça, etc.
Oui, Gentilly 1, c'était un réacteur prototype. Puis la construction de Gentilly 1 a débuté en 1966. Puis la première production d'électricité, ça a été en 71, pendant la mise en service. Le réacteur a été en opération commerciale de 72 à 78. C'était un réacteur prototype, donc il fallait apporter des ajustements au fur et à mesure que le réacteur fonctionnait. Puis en fait, le réacteur a fonctionné seulement pendant un équivalent de 183 jours à pleine puissance. Donc, pendant les six années d'opération, le réacteur était pratiquement toujours à l'arrêt. On apportait des modifications pour améliorer le contrôle du réacteur, puis modifier les équipements. Puis c'est normal, c'était un prototype.
Puis si on compare avec Gentilly 2, qui a duré quasiment une trentaine d'années, Donald?
Oui, ça a commencé, ça s'est terminé évidemment en 2012, là, mais c'est 25 ans environ de production, oui. Gentilly 2, de mémoire.
Ça a débuté en 83, la production commerciale de Gentilly 2.
Mais Gentilly, ouais. Ouais, vas-y, Donald.
Ben, c'est ça, puis tu sais, le déclassement, Steve nous parle de déclassement de Gentilly 1, mais tu sais, Laboratoire canadien nucléaire ont évidemment des expériences de déclassement de par les installations qu'ils avaient, entre autres, à Chalk River. Et donc, ils ont déjà des bâtiments qui ont été déclassés, démantelés, parce que c'est quand même, il y a quand même une complexité. Hein, t'sais, c'est compliqué construire, mais dans le nucléaire, c'est aussi compliqué déconstruire.
Exactement. Puis, on parlait de G1, donc, qui n'a pas duré longtemps. C'est par sa nature d'être un prototype ou c'était quoi les raisons de sa courte durée de vie?
Oui, en fait, c'était un réacteur à eau bouillante. Puis pour la filière Candou, il y a deux types de technologies, réacteur à eau bouillante et réacteur à eau pressurisée. À Gentilly 2, c'est un réacteur à eau pressurisée. Puis l'autre prototype qui était en opération en Ontario, à Douglas Point, c'était un prototype à eau pressurisée. Puis lui, il a été en opération pendant 17 ans. Puis après ça, ils ont développé toute la filière Candu avec cette technologie. À Gentilly 1, c'était un réacteur qui était quand même particulier, étant donné que la vapeur allait directement vers la turbine. Donc, il y avait des différentes considérations à apporter. Puis finalement, Énergie atomique du Canada limité ont décidé d'arrêter le projet en 1978 parce qu'il y avait trop de modifications qui étaient nécessaires là, pour pouvoir opérer le réacteur de façon efficace. Ils ont donc décidé de débuter le déclassement de Gentilly 1. Puis à l'époque aussi, en 1978, il y avait les installations de Gentilly 2, le réacteur de Gentilly 2 qui était en construction. Puis c'est sûr qu'il y avait un grand besoin de personnel. Mm-hmm. Puis Gentilly 1, ça n'a pas opéré longtemps, sauf que ça a été une excellente école pour les travailleurs. Dans tous les domaines, autant les mécaniciens au niveau de maintenance, les opérateurs, les ingénieurs, les gestionnaires, les techniciens en radioprotection. Ça a été une excellente école pour apprendre de la technologie nucléaire. Puis la plupart des employés ont été transférés à G2. Donc, c'était aussi pratiquement un besoin là, de transférer ces gens-là à G2.
Donc, la main-d'œuvre a suivi. Donc, Gentilly 2 a pris la place. Et puis, anecdote, tu connais mon père. Là. Mon père a travaillé à la construction de Gentilly 1, a travaillé à la construction de Gentilly 2. Et je pense que vous avez fait des dossiers, même toi et lui, quand il était à Gentilly 2. Donc, effectivement, il y a eu beaucoup de monde qui ont migré de Gentilly 1 à Gentilly 2 avec cette décision-là. Puis, ça a été une bonne chose dans un sens.
Oui, on peut dire que ça a été bénéfique pour la région. Puis, on a pu développer aussi la technologie des Candou, même si cette technologie-là... On peut continuer avec, là, c'était quand même...
Mais c'est quand même important aussi de cibler, Steve. Les gens qui ont travaillé à Gentilly 2 le savent, Gentilly 1, Gentilly 2, mais il y a quand même plusieurs Candou partout dans le monde. Hein. C'est donc en Corée, en Argentine, un peu partout.
En Roumanie, en Chine.
Oui. Donc, tu sais, ces projets-là de recherche ont résulté à des Candou qui ont vu le jour au Canada, mais vraiment partout dans le monde aussi. Là.
On sait qu'avec le débat des besoins énergétiques, souvent on évoque dans l'actualité, bon, repartir peut-être Gentilly 2, mais... Techniquement, est-ce que ça pourrait se faire repartir Gentilly 1 ou c'est vraiment, on oublie ça à tout jamais?
Ben, c'est vraiment pas possible. Là. Okay. Les équipements n'ont pas été préservés, puis c'est vraiment pas. Okay. Ce serait pas une bonne chose.
Donc, si on parle de Gentilly 1, bon, il y a eu quand même une première phase de déclassement, si je comprends bien, dans les années 80. Là.
Exactement. En 78, le réacteur a été mis en état de préservation. Puis la première phase de déclassement a débuté en 78, puis s'est terminée en 86. Donc, depuis 86, le réacteur est en état de stockage sous surveillance. Ça veut dire qu'il n'y a aucun démantèlement qui est réalisé. On fait seulement entretenir le site pour qu'il demeure sécuritaire. Puis aussi, on peut retirer les matières dangereuses telles que l'amiante. C'est les seuls travaux qu'on peut faire. Pendant ce temps-là, le réacteur, comme je disais, le site est comme en dormance. Puis les équipements subissent une décroissance radioactive. Donc, après plus de environ 45 ans, maintenant, on pense que c'est le temps de débuter la préparation du démantèlement de l'installation qui se trouve à être la dernière phase du déclassement après l'état de stockage et surveillance. Donc, c'est ça qu'on a entrepris, de débuter la préparation du démantèlement des installations.
Toi, Donald, tu as vécu à ta façon le déclassement de Gentilly 2 ou pas nécessairement?
Oui, vraiment. Les étapes de 2015 à 2020, là, on a travaillé fort et puis ça a été vraiment intéressant, instructif. Mais vraiment, il faut que les gens comprennent que déclasser, c'est quand même compliqué parce que ce que Steve et ce que les équipes de LCN doivent gérer, c'est beaucoup la santé et sécurité des travailleurs pour ne pas les exposer à des risques induits. Tu sais, parce que je voudrais pas parler à travers mon chapeau, Steve, mais je pense que les risques pour la population sont quand même relativement faibles. C'est vraiment plus pour les techniques de démantèlement et tout ça qu'on doit s'assurer de préserver pour être sûr de ne pas exposer des travailleurs à des doses inutiles.
Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir après la pause, le projet de déclassement des installations de Gentilly 1, comment ça va tout se passer et aussi même rencontre d'information publique qui s'en vient aussi. Donc, on parlera de tout ça après la pause avec notre invité Steve Plante, conseiller en gestion du déclassement pour les laboratoires nucléaires canadiens. Évidemment, Donald Olivier de la Société du Parc industriel et portuaire de Bécancour. Alors, posez vos questions, hein, faites vite pendant la pause via 90, le Parc en 30 minutes. Vous cliquez sur « Posez vos questions » ou vous pouvez le faire par texto, par téléphone 819-519-9050, 819-519-9050. Posez vos questions et on revient après la pause.
De retour à l'émission Le Parc en 30 minutes avec Marc Rochette.
Nous sommes de retour avec notre invité Steve Plante des Laboratoires nucléaires canadiens et évidemment Donald Olivier de la Société du Parc. Et on était dans la discussion sur Gentilly 1. On a parlé de la première phase de déclassement, Steve, qui a eu lieu dans les années 80. Il y a eu une quarantaine d'années de dormance. Et là, on est dans une autre phase de démantèlement ou de déclassement des installations. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques, explique aux auditeurs, aux auditrices, vraiment là, ce projet de déclassement des installations de Gentilly 1.
Parfait. À Gentilly 1, on a un permis de déclassement qui ne nous permet pas de démolir les bâtiments puis de démanteler les équipements. Donc, en juillet dernier, on a fait une demande à la Commission canadienne de sûreté nucléaire, une demande de modification de permis pour pouvoir aller de l'avant avec la dernière phase du déclassement des installations.
Donc, ça, c'est l'étape qui est nécessaire de toute façon.
Exactement. Donc, on a déposé notre demande en juillet. Par la suite, c'est la Commission canadienne de sûreté nucléaire qui prend la relève. C'est un processus qui est très bien établi puis qui est très bien connu. Puis, il y a des mémoires qui sont déposées concernant le projet. Suite à ça, il va y avoir des audiences publiques. Habituellement, les audiences publiques, c'est de 12 à 18 mois après la demande de modification de permis. Ça dépend des questions qui sont reçues, des mémoires qui sont déposées. Mais on s'attend à ce qu'il y ait des audiences publiques en début 2026.
Évidemment, on se met dans la peau de la population de Bécancour et des environs. Alors, chaque fois qu'on parle de nucléaire, ça peut parfois nous causer un petit peu de frisson là, sur la dangerosité de tout ça. Est-ce que, bon, le transport des déchets... Comment tout ça, on peut rassurer les gens ou comment ça peut se faire techniquement pour le transport ou le déménagement des déchets, là, quelque part? Là?
On peut comprendre que le démantèlement des installations de Gentilly 1 puisse susciter des questions de la part de la population, c'est bien normal. Mais l'industrie du nucléaire, c'est une industrie qui est réglementée avec rigueur au Canada et partout dans le monde. Il y a déjà eu des déclassements d'installations nucléaires partout dans le monde. Puis la Commission canadienne de sûreté nucléaire, c'est eux qui établissent les règles.
Donc, oui, parce que dans le fond, c'est ça. Le permis que vous allez chercher va vous permettre, va vous donner les balises à respecter, autant pour les travaux sur le site que pour les travaux aussi, probablement, où il y aura des permis pour les dossiers de transport. Mais tu sais, le travail qui est à faire vraiment sur le site, si on essaie de décrire aux gens un peu qu'est-ce qui se ferait sur le terrain comme tel...
Oui, une fois qu'on va avoir notre demande d'autorisation approuvée, on va pouvoir débuter la préparation du démantèlement des installations. Fait qu'en gros, on va retirer tous les équipements des bâtiments à Gentilly 1, puis par la suite, on va démolir les bâtiments, puis on va restaurer le site. Les terrains où sont installés Gentilly 1 appartiennent à Hydro-Québec, à Gentilly 2, donc on va céder les terrains, on va retourner les terrains par la suite à Gentilly 2, à Hydro-Québec.
Donc, la majorité des déchets sont enfouis ou s'en vont vers des sites d'enfouissement autorisés, dans le fond. Là.
Effectivement, les déchets qui vont être générés par le démantèlement de l'installation, la majorité des déchets, ça va être des déchets conventionnels qu'on va pouvoir recycler ou, comme tu dis, envoyer vers des sites d'enfouissement locaux.
Donc, exemple conventionnel, ça peut être carrément des pièces métalliques, du béton, toutes sortes de trucs comme ça qui sera disposé comme n'importe qui en disposerait.
Effectivement. Puis évidemment, on va s'assurer qu'il n'y a aucune contamination reliée à ces déchets-là. Puis ça, les normes sont très strictes. D'accord. Il ne doit vraiment pas avoir d'activité radiologique. Donc, effectivement, on va recycler le métal, puis on va envoyer le reste là, vers des sites d'enfouissement. Il y a aussi des déchets dangereux comme l'amiante, le plomb, les PCB. Ça va être envoyé vers des installations spécialisées. Puis, il va rester des déchets nucléaires. Une quantité importante étant donné qu'on a opéré seulement pendant 183 jours équivalent à pleine puissance. Donc, les déchets nucléaires, les déchets radioactifs, il y a une partie des déchets qui vont pouvoir être recyclés par des entreprises spécialisées. Il y a quand même une demande là, pour ce domaine-là. Puis, les déchets qui ne pourront pas être recyclés vont être envoyés vers notre site de Chalk River où on dispose d'installations déjà autorisées pour stocker les déchets radioactifs.
Bref, tout ça est bien encadré, si on comprend bien, là, la disposition des déchets radioactifs, non radioactifs, etc.
Effectivement. Tout ce qu'on fait, évidemment, on en parle avec la commission, on a des plans détaillés de déclassement. Puis au niveau du transport, bien, c'est la Commission canadienne de sûreté nucléaire et Transport Canada qui gère le transport de matières radioactives. Puis, en fait, il y a du transport de matière radioactive à tous les jours au Canada. Hein. Ce n'est pas seulement pour les installations nucléaires.
Oui, parce que le domaine de la santé utilise quand même des équipements, ne serait-ce que la radiothérapie ou des trucs comme ça. Là.
Exactement. Quand on va chez le dentiste, on passe des radiographies. C'est fait avec du matériel nucléaire. Donc, pratiquement tous les jours, il y a des matières radioactives qui sont transportées sur les routes au Québec. Puis à chaque fois qu'il y a un transport, c'est très bien géré. Il y a un plan d'intervention d'urgence qui est mis sur pied. Puis on s'assure que le transport est sécuritaire. Puis si jamais il arrive un incident, on va s'assurer que les ressources vont être déplacées rapidement.
Ouais, on s'entend, Steve, que le conducteur du camion improvise pas son trajet quand il fait du transport.
Effectivement.
il suit le trajet. Puis dis-moi donc, à Chalk River, est-ce que les installations pour accueillir ces matériaux-là sont déjà construites? Y en a-t-il en construction? C'est à venir?
Les installations qui sont en place, c'est des installations pour faire du stockage de déchets qu'on appelle intérimaires. Donc, c'est pour l'horizon, c'est environ une cinquantaine d'années. C'est pas du stockage de déchets permanents. Il y a un site qui est en préparation pour faire le stockage permanent, mais ce site-là, il n'a pas encore été autorisé par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Est-ce que c'est le site, le dépôt géologique en profondeur? Donc, est-ce qu'on peut dire quelques mots là-dessus? Parce que dans le fond, c'est que l'ensemble des joueurs nucléaires canadiens font équipe ensemble pour avoir un genre d'endroit où gérer ces déchets-là. Et puis, le dépôt géologique en profondeur, en tout cas, aux dernières nouvelles, moi, ce que j'avais, c'était prévu de le construire en Ontario. Ils sont rendus dans quelle étape, dans quelle phase d'étude pour l'instant? Est-ce qu'ils ont choisi un site?
Oui, toi, tu fais référence au stockage du combustible nucléaire, effectivement. Puis ça, c'est la Société de gestion des déchets nucléaires, la SGDN, qui est responsable de construire ce site. Il y avait une vingtaine de municipalités qui ont été approchées au début du projet. Maintenant, il en reste seulement deux. Puis je pense que tout dernièrement, je ne voudrais pas commettre d'erreur, là, mais je pense que la municipalité a été choisie.
OK, aurait été sélectionnée pour accueillir le combustible irradié. Donc, l'ensemble des grappes, la plupart des grappes canadiennes iraient vers ce site-là.
Effectivement, puis ça fait partie là, de la stratégie pan-canadienne là, pour stocker tout le combustible nucléaire au Canada.
Le projet de déclassement, ça permet aussi d'être en relation avec les parties prenantes. Puis on pourrait peut-être parler de tout ce processus-là qui va culminer bientôt à une rencontre d'information, Steve.
Effectivement. Depuis 2023, on a rencontré les différentes parties prenantes. On a rencontré des représentants au fédéral, au provincial. On a rencontré les maires de Bécancour, Trois-Rivières et Champlain.
Tu as rencontré le PDG du parc aussi.
On a rencontré le PDG du parc. On est allé te rencontrer, Donald.
Ben oui.
On a aussi rencontré les communautés autochtones. On a rencontré les nations Wabanaki, puis Huron-Wendat. Puis on continue à faire des rencontres régulièrement. Notre but, là, c'est vraiment d'informer la population puis de connaître c'est quoi les préoccupations de la population. On ne veut pas débuter le projet puis que les gens disent « Bon, qu'est-ce que c'est ça? On n'a pas entendu parler. » On veut que les gens soient bien informés. On veut prendre connaissance de leurs préoccupations, adresser les préoccupations. Puis, le 14 mai prochain, au centre culturel, au centre communautaire La Rochelle, juste ici à Saint-Grégoire, on va avoir une séance d'information publique. Il va y avoir les laboratoires nucléaires canadiens qui vont être là. Il va y avoir aussi Hydro-Québec, des représentants de Gentilly 2, qui vont faire une mise à jour de leur projet de déclassement. Il va y avoir la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ainsi que la Société de gestion des déchets nucléaires, la SGDN.
Donc, le 14 mai, de 14h à 20h, au Centre culturel de La Rochelle, là, c'est une invitation à la population.
Oui, venez nous rencontrer, venez poser vos questions. Il n'y a pas de mauvaises questions. On va vous expliquer le projet. Si vous voulez entendre parler de l'historique de Gentilly 1, ça va nous faire plaisir. C'est vraiment passionnant.
Wow.
Puis on espère vraiment rencontrer plusieurs personnes.
Fort intéressant. Puis en parlant d'événements à annoncer, je pense que Donald, on va y aller de ton côté parce que le défi des jardins Nicolette Bécancour 2025, dont tu fais partie, des participants, puis il y a un événement qui s'en vient la semaine prochaine,
oui,
je crois.
Comme cycliste, je fais partie de l'événement. La levée de fonds va quand même très bon train. On se rappelle que c'est pour lever des sommes pour investir dans les écoles, les deux MRC. Et puis il y a une activité avec Pierre Lavoie le 27 mars prochain, au club de golf Godefroy, puis les gens peuvent aller chercher de l'information et s'inscrire sur le site de la Chambre de commerce du Centre du Québec. Donc, vraiment une belle activité. J'invite les gens à venir se joindre à nous pour cet échange-là. Ce sera un panel d'échange qui inclura différentes personnes de la région, mais aussi, évidemment, Pierre Lavoie.
Puis ce défi des jardins, ça a lieu au mois de juin.
Oui, écoute, là, Steve s'entraîne beaucoup. Steve fait beaucoup de courses d'endurance, mais moi, j'en fais pas beaucoup. C'est que donc, je dois m'entraîner. Ça va être 150 km de vélo pendant 10 jours. Là, donc,
c'est au mois de juin, je
pense. Oui, début juin.
D'accord.
Ouais, début juin. Puis peut-être juste faire un clin d'œil sur ce que Steve amenait. Bon, le projet, il va y avoir des consultations, mais pour les gens, il faut comprendre que c'est quand même un projet qui va générer quand même des travaux substantiels. Donc, on ne fait pas ça avec deux, trois travailleurs. Fait que donc, il y aura des contrats, il y aura comme un impact et des possibilités d'affaires pour des entrepreneurs de la région du Québec. Fait que donc, il y aura des retombées économiques. On peut penser que construire, il y a des retombées économiques quand on construit, mais dans ce cas-là, il y a des retombées économiques aussi, même quand on gère un déclassement, parce que c'est des travaux, on doit se dire, c'est des travaux quand même majeurs et puis qui auront un impact pour la communauté d'affaires de la région.
Parce que si on parle de travaux qui vont s'échelonner... sur plusieurs années, j'imagine?
Pour l'instant, on parle d'environ 6 ans. D'accord. C'est sûr qu'on n'a pas fait la planification détaillée, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Là. Puis l'important pour nous, c'est de bien préparer les travaux puis de faire ça de façon minutieuse. Donc, on va s'assurer que les travaux sont prêts avant de débuter.
En tout cas, moi, je suis convaincu que la population, mais en plus que nos auditeurs et auditrices ont appris beaucoup de choses parce qu'on connaissait beaucoup Gentil 2, mais Gentil 1, peut-être pas tant que ça. Puis surtout... les laboratoires nucléaires canadiens, on était quand même plus ou moins au courant de ce qu'était cette organisation-là. Merci beaucoup, Steve, pour ces informations, ces explications, avec un complice de longue date, Donald Olivier. Donc, merci pour votre collaboration aux deux pour éclairer, c'est le but de l'émission, éclairer nos gens, nos auditeurs à la maison. La semaine prochaine, bien, écoutez, ne manquez pas ça, on sera avec Service de transformation Bécancour, Danny Boudreau. Je pense que Donald, c'est la première entreprise du parc, ça.
Presque. Oui, c'était par Béragui avant, là, ouais, mais les lieux, oui, c'est la première.
Initialement, donc oui. Ça serait intéressant de revenir sur ce sujet-là. Alors, on invite les gens à être avec nous la semaine prochaine pour le Parc en 30 minutes pour une nouvelle émission, mais aussi de poser vos questions sur le site via.fm, onglet le Parc en 30 minutes au 819-519-9050, 819-9050. Bonne semaine à tout le monde. On se retrouve lundi prochain, le Parc en 30 minutes.